Comment ça marche? De plus en plus mal, apparemment, parce que nous, ça fait un moment qu'on n'a rien écrit ensemble. Bon, enfin bon, on l'a beaucoup fait. Oui, oui. Oui, ça fait 2 ans. Oui. Donc, toi, tu as les 4 mains, toi, tout seul, là?
Ben oui, oui, parce que c'est bien trop de boss. Non, je plaisante.
Je sais pas, qu'est-ce que tu...
Et si on commençait par les questions?
Oui, si on commençait par les questions.
On va structurer par...
Pourquoi tu retournes toujours ton...
Pourquoi?
C'est parce que c'est un putain de rebelle.
Voilà, parce que je suis... Merci. La moitié des questions qui seront posées, Laure y répondra plus vite que moi.
Alors, pourquoi écrire à...
Pourquoi écrire à 4 mains? Parce qu'on peut, déjà, je pense que c'est la même chose, parce qu'on est des rebelles. Non, c'était l'opportunité. On a commencé ensemble avec Anne il y a très longtemps. Quand on a signé notre premier contrat en 87, très longtemps, tout est relatif à l'échelle galactique, tout ça. Et on a écrit notre premier bouquin en groupe, ça devait être 86. Livre dont vous êtes le héros, qui n'est jamais sorti puisque c'était une énorme arnaque de la part de Doug Edline, éditeur s'il en est. Arnaqueur aussi, enfin bon, Doug Edline quoi. Et puis ça nous a plu, donc on a continué. En fait, grave erreur. Parce que c'est compliqué, enfin, ça apporte tellement de trucs, mais c'est aussi super compliqué de le faire. Et ils vont nous expliquer pourquoi c'est compliqué. Tac.
Bon, déjà, on ne gagne pas du temps.
Patate chaude.
Hein, on ne gagne pas de temps. C'est pas un gain de temps d'écrire.
Ah, sauf sur des trucs linéaires, sauf sur des trucs très très linéaires et qui ne nécessitent pas trop de structure, machin, et là on peut vraiment se partager le boulot.
Oui,
et là on carbure. Mais, on rend carbure quand on est jeune et dynamique, et on ne l'est plus au bout de la 2e année.
Nous on a commencé par hasard en fait. Hein, ça remonte, je ne sais même plus en quelle année.
C'était avant Jurassic,
ils vont changer.
C'était juste au moment.
Alain avait un ordinateur, moi j'en avais pas encore, voilà. Voilà. Il avait son petit machin, là, comment ça s'appelle, petit Apple IIc.
Apple IIc.
Donc en fait, on s'était rencontrés tout à fait, pas par hasard, mais lui il m'avait déjà vu, moi j'avais pas remarqué. Dans une convention de science-fiction, et puis on était à Angoulême, c'est à Angoulême qu'il y avait un orage absolument carabiné. Alors qu'on allait en direction d'un restaurant, j'ai entendu dans mon dos quelqu'un qui disait vivement cet été qu'on aille à Menton. J'ai fait demi-tour, j'ai regardé, j'ai vu ce grand monsieur et j'ai dit « Tu vas à Menton l'été, toi ?» Il m'a dit « Oui, mes parents ont un appartement à Menton. » Je dis « Moi, je vais à Menton aussi l'été. Mes parents ont aussi un appartement à Menton. » Et c'est comme ça qu'on s'est donné rendez-vous pour l'été suivant et que nous avons mutuellement fait connaissance avec nos conjoints. C'est-à-dire qu'il était avec sa femme et ses enfants. Moi, j'étais avec mon mari et mes enfants. Nos enfants ont à peu près le même âge. Donc, on s'est retrouvés, effectivement, à prendre l'apéro un jour à Menton. Et puis, on savait qu'on était tous les deux, quand même, dans le milieu de la science-fiction. L'alcool aidant, oui. Et il m'a dit... moi, j'habitais en région parisienne à l'époque, lui, à Orléans. Il m'a dit, il faudrait que tu viennes chez moi, parce que j'ai un ordinateur, moi.
Et là, je dis respect, hein.
Et moi, j'étais encore à la machine à écrire électrique. Alors donc, effectivement, nous sommes allés chez eux. Et puis il m'a montré son espèce de machin, là. C'était un objet complètement magique, quoi, à l'époque. Quoi.
Tu parles de quoi?
Des petites lettres vertes, d'accord, sur un petit d'accord. Écran comme ça. Des petites lettres
ça correspondait vertes. Aussi, donc.
Et donc, voilà, nous avons commencé à discuter à partir d'une phrase qu'il avait dite au cours du repas. Il avait dit, il y a une phrase qui me trotte dans la tête en ce moment, c'est « Le soleil se couchait bien tard ce soir-là ». Et il me faisait des tas de commentaires sur le fonctionnement de l'ordinateur sans qu'il y ait de texte à l'écran. Et je lui ai dit, il faudrait écrire quelque chose pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Il me dit, écrire quoi? Je lui dis, on n'a qu'à commencer avec la phrase que tu as donnée tout à l'heure, le soleil se couchait bien tard ce soir-là. Je tape avec mes 10 doigts, je tape très vite, j'ai appris la dactylo exprès pour écrire plus vite à un moment donné. Je me suis mise devant le clavier, j'ai commencé à taper, alors je regardais faire. était encore comme ça, grosset quand même. Hein,
je suis toujours.
Il est toujours.
Parce que nous, on tape à quatre mains, mais à 8 doigts autour.
Et puis finalement, au bout d'un moment, le paragraphe s'était un peu étoffé. C'est là que c'est rigolo, parce qu'en fait, la nouvelle s'appelle « Les soleils de Nashua », pour la bonne raison qu'à un moment donné, on a dit bah, « Tiens, ça va se passer sur une petite planète artificielle, etc. » Et j'ai dit « Comment on l'appelle ?» Il m'a dit bah, « Je ne sais pas. » Alors j'ai tourné les yeux, il y avait des disquettes Nashua à côté. J'ai dit « Tiens, on va appeler ça Nashua. » Donc, et puis bon, moi, il y avait...
Oh, comme... Il n'y avait pas une bouteille de desktop.
Oui, tu vois. Et donc, le texte faisait à peu près une demi-page imprimée, et puis c'était tout, quoi. C'était l'imprimante à aiguille.
16 heures d'impression.
Oui. Ouais.
Et dans la semaine suivante, j'ai reçu une enveloppe venant d'Orléans avec un bout de texte au bout. Il avait rajouté une demi-page au bout. Et c'est parti comme ça. J'ai eu envie de continuer moi aussi. J'ai écrit encore une... Enfin, j'ai dû écrire une page à peu près. Je lui ai renvoyé. Et notre première nouvelle a été faite comme ça. Sur la démonstration du fonctionnement d'un ordinateur, en fait. Et moi, j'aurais laissé ce texte dans un fond de tiroir. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas que je trouvais qu'il n'était pas de qualité. Mais enfin, j'avais jamais rien publié. Enfin bon, ça serait resté comme ça. Pour moi, quelque part, bien coincé au milieu de toutes les autres choses qui garnissaient mes fonds de tiroir. Mais lui, il l'a envoyé à Fiction. Et Fiction, la revue Fiction l'a prise et l'a publiée. Voilà. C'est donc, en fait, nos débuts d'écrivains à tous les deux, c'est ce texte-là. Un texte écrit à quatre mains. Donc on est parti après chacun sur notre voie, mais notre première publication, c'est un texte écrit ensemble. Voilà. Et en tout, alors j'essayais de compter ce matin en me réveillant, en me disant combien on a écrit de livres ensemble. On a écrit sûr et certain les 9 Carrie et Meghan, les 12 Lumina. Il y a au moins 3 ou 4 autres romans qui traînent un peu à droite à gauche qu'on a fait ensemble. Il y a
à peu près
25. Quoi. Oui, à peu près
25, oui. On a même écrit... À Sima, en fait.
Oui, les Lumina, on était trois. Oui.
Parce qu'il fallait absolument que ça se fasse rapidement. Dès le départ, c'était un cycle fini en 12 volumes. Il était impossible de sortir un titre par an, parce que le gamin qui commençait à 12 ans, il terminait à 24, ça aurait coincé un peu, donc il fallait y aller très très vite. Et là, donc, on a écrit à trois mains. Donc sur un principe de 4-4-2, hein, sur 10 chapitres, on écrivait 4, autant on écrivait 4.
Et moi, je parais la parente pauvre en disant que j'en écrivais que deux, mais il faut dire que je corrigeais leurs 8 chapitres aussi, parce que les gars, ça n'avait rien à foutre de corriger, donc c'était moi qui reprenais les 8 premiers chapitres. D'ailleurs, j'ai piqué ma crise un jour, parce que c'est quand même, Lumina, c'est une princesse qui a un pouvoir avec la lumière, etc. Et au 8e chapitre, elle ne s'était toujours pas servie de son pouvoir. Quoi. Alors, je leur ai téléphoné à tous les deux. Je dis, écoutez, les gars, c'est pas un briquet, la nana. Hein, elle ne fait pas ça avec son pouce une fois de temps en temps. Là, je m'étais un peu énervé.
Ouais, signe de bonne santé.
C'est plus belle la vie, votre truc.
Voilà, bon, allez, j'ai assez parlé. À vous, messieurs.
Alors, que voulez-vous savoir d'autre?
Ouais, alors voilà, c'est le plus important.
Au tout départ, il faut savoir quel type d'auteur on est. Ça tombe bien, on est deux structurants. Il y a deux sortes d'auteurs, les structurants et les scripturants ou littératurants. Enfin bon. Alors, les structurants, ils veulent tout savoir avant de commencer. Okay, c'est-à-dire qu'on va en lancer des fois beaucoup plus qu'on va en mettre dans le livre. Et puis les littératurants, style Pierre Bordage, à qui vous demandez un synopsis pour une collection et le bouquin, on sait qu'il va faire 500 000 signes, et le gars fait 3 lignes, il ne peut pas plus. Il ne peut pas plus parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Lui, tout lui arrive au moment où il écrit. Alors quand on est des structurants, ça ne pose aucun problème puisqu'on structure complètement ensemble, on travaille vraiment ensemble. Et là, une fois que c'est fait, on prend soit les 5 premiers chapitres plutôt que les autres, où ça nous arrivait dans les Carrie Meghan, moi je disais tiens je prends le 1, le 3, le 4, le 5 parce qu'il y a de la bouffe et de la bagarre, et les autres c'est des sentiments, donc c'est toi. Voilà, donc...
Et c'est vrai en plus.
À chacun ses aptitudes. Bon. Voilà, ce qui est terrible c'est lorsque vous êtes avec un littérature. En ce moment, j'ai écrit justement avec Pierre Bordage, et là c'est encore sur un autre thème différent, c'est-à-dire que lui écrit un roman pour adultes. Moi, je suis en train d'écrire un roman pour la jeunesse, mais ça se passe sur le même monde qui s'appelle Gigante. Et planète géante, il faut un siècle à un avion pour en faire le tour, pour montrer la taille du truc. Mais moi, je m'occupe du père qui part à la recherche de son fils. Et Pierre raconte l'histoire du fils. Et moi, là, je suis obligé depuis...
C'est le nom de Nemo.
Ça fait 15 jours. Je vais laisser passer encore au moins 15 jours parce que je ne peux plus écrire, parce que j'attends des informations. Et Pierre ne sait absolument pas ce qu'il va écrire en ce moment. Donc voilà, donc ça, faut pas écrire avec... C'est très dur d'écrire entre un structurant et un littérateur, parce que le structurant, il souffre, il attend plein de choses. Donc Pierre me dit, ouais, c'est chiant, un structurant, parce que lui, ça lui arrive tout ça. Donc ça, c'est déjà ça. Après l'écriture, en elle-même, jamais on écrit ensemble. On peut pas.
On a essayé une fois.
Je l'aurais tué.
Mais vous, ça aurait été un double homicide, là, hein, monsieur.
Je l'appelle Piscopie, elle s'assoit, je ne regarde pas, et allez-y. Ça coule, alors que moi je marche en arrière, je m'assois, je tape une fois, je m'enlève.
Il va fumer une clope, il mord son crayon, il revient et tout, il m'énerve. Ouais. C'est donc intenable.
On n'est pas du tout dans la même temporalité d'écriture. Donc l'écriture même se passe vraiment seule. Donc à la fin, effectivement, il y a un lissage, souvent c'est elle qui
se colle. Souvent, oui, tout le temps. Voilà. Mais ce qui est assez intéressant à faire comme remarque, c'est qu'on écrit des choses différentes quand on écrit tout seul. On a l'impression, enfin moi j'ai la sensation, qu'on essaie de trouver presque une voie intermédiaire, une voie centrale, c'est-à-dire qu'Alain se rapproche un petit peu de ce que je fais. Par exemple, il parlait de bouffe tout de suite. Moi j'ai supprimé un nombre impressionnant de repas dans nos romans parce que les gamins ils bouffaient à chaque chapitre. Mais moi j'y pense pas, je pense jamais à faire manger mes personnages. Donc, quand j'écris une partie, par exemple, je vais me forcer à faire un repas. Lui, il va se dire, là, il faudra peut-être que je mette un petit peu de sentiment, etc.
Faut qu'il mette un viol.
Donc, en fait, on essaie de se rapprocher.
Les sentiments à moi, c'est repasse le poil plat, je vais me
On essaie de se rapprocher un peu l'un de l'autre, quoi, en sachant, parce qu'on pratique nos écrits individuels, si j'ose dire, en échange de lecture depuis toujours aussi, c'est-à-dire que quand moi je fais quelque chose, je lui fais lire et vice-versa, on est nos deux premiers lecteurs, quoi, en fait, vice-versa, croisés sur nos propres textes. Mais c'est sûr que le lissage final, ça n'est pas vraiment modifié au niveau du style, c'est pour être sûr que toute la cohérence du récit soit bien respectée, quoi, pour voir si... Il n'y a pas des choses.
C'est moins une faute d'orthographe.
Oui, ben ça, les oui, c'est moins une faute d'orthographe. On en oublie tout le temps, de toute façon. Mais...
Pareil, mais moins bien. Non, voilà.
Non, mais la différence, c'est que vous écriviez dans le même lieu.
Oui, on ne parle pas. Et avec Anne, je pense que je suis plus structurant qu'elle, et elle est carrément moins structurée que moi. Mais il y a une nuance. Okay. Et
on se demande d'où ça vient.
Je suis vachement plus mécanicien dans l'âme, donc pour moi c'est il faut qu'il y ait des causes, des conséquences, que ça s'enchaîne machin. Et au tout début, quand on faisait du jeu, j'étais le gardien de la réalité littéralement, parce qu'il y a des trucs qu'on ne pouvait pas faire dans un univers de jeu, et c'était moi qui hurlais et qui lançais les stops. Et là, elle lançait les assiettes. Voilà, mais effectivement, et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire elle moins structurante, moi plus structurante, et à partir de là, trouver un équilibre de... Mais c'est Denis Guillot qui disait fort justement, c'est super avec eux, ils font un super synopsis, ils font un machin, puis après ils font n'importe quoi. Voilà. Et je ne retrouve jamais ce qu'on avait décidé. Ah, pareil, bon, ouais.
On ne choisit pas, hein, c'est un structurant ou littératurant, hein, voilà. C'est une nature intérieure, mais bon, c'est... C'est quand même intéressant là, parce qu'en ce moment, donc, comme je suis obligé d'attendre, mais j'écris quand même encore des choses, ça me redonne une bouffée d'oxygène justement en étant un peu plus littératurant, parce qu'avec l'âge, plus ça allait, plus c'était structurant, quoi. C'est-à-dire, si tu ne sais pas comment le mec va être au départ, qu'est-ce qu'il va porter à tel chapitre, on est un peu malade là-dessus. Donc ça devient parano, quoi. Donc après, c'est sans fin. Et à un moment donné, la structure, il faut l'arrêter, et puis comme on a dit, il faut... s'en servir comme appui, mais il faut être capable aussi de construire une pièce supplémentaire par rapport au plan qu'on a fait, si on a envie de le faire. Voilà.
Et après, justement, ça, c'est limite de la technique, c'est de savoir que quand on construit le truc, on se laisse le coin là de libre, de façon à pouvoir faire ce qu'on veut derrière. Ça ne veut rien dire comme ça en le disant, mais moi, j'ai bien compris.
Non, mais les littératurants, c'est eux qui disent, ah, alors là, je me laisse porter par mes héros, c'est eux qui vivent, c'est eux qui... Alors que nous, on les tient, voilà.
Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est pas moi qui pars à l'aventure, c'est mes personnages. Moi, je sais pratiquement toujours la dernière phrase de mon roman au moment où je commence à l'écrire. J'ai une cible. Bon, la flèche va peut-être faire ça, mais j'ai une cible. Et si j'avais pas cette cible, je me lancerais pas. Je peux pas me lancer à faire un bouquin tant que je ne sais pas où je vais. Quand on a écrit ensemble L'Enfant Mémoire, Alain m'a dit on pourrait terminer. Alors, on trouve les titres assez tôt, parce que ça, c'est aussi souvent moi qui l'impose. Moi, pour moi, le titre, c'est essentiel. Et donc.
Bien souvent, elle fait le quatrième de couverture avant qu'on commence à écrire l'histoire.
Non.
Et le relevé de vente aussi.
Non. Ça, je fais le quatrième de couverture, je le fais quand j'arrive à peu près au bout de 3-4 chapitres. C'est pour voir ce que ce livre peut. Enfin, qu'est-ce qui peut être l'accroche de ce bouquin.
Bah, c'est un pitch. Enfin, c'est,
ouais, ouais.
C'est, non, mais c'est vrai
pitch d'ascenseur d'Hollywood, la quatrième de couverture. Donc, si on ne l'a pas tout de suite. Mais c'est pas une sympathique assistante de com qui va nous prendre ça mal.
Ah bah moi je tiens à les faire moi-même, hein, si je peux. Si c'est pas de moi, c'est vraiment que l'éditeur a imposé que je ne m'en mêle pas, mais sinon je le fais moi-même. Ouais.
Mais c'est marrant justement le coup de savoir où on va. Anne se réveille, et c'était effectivement quasiment sur un des premiers bouquins. Elle se réveille avec la scène de départ, qui était le début de Reflet d'écume à l'époque, en 92. Elle s'est réveillée avec la scène de départ. Donc elle y était et. Et moi, ça, j'en suis strictement incapable. Moi, je vais prendre une scène, justement, une scène de départ, ça tombe bien, elle en a une. Et ensuite, on va travailler dessus et j'aurai plus de facilité à savoir effectivement où on s'arrête, à quel moment on s'arrête. Et la gérardisation des chapitres de bouquins, c'est effectivement s'arrêter sur une bonne fin de chapitre, une bonne fin de bouquin, une bonne fin. Ça, c'est le côté mécanique.
L'auteur, c'est comme s'il regardait une bobine de film. Voilà. Il déroule et déroule, puis à un moment, il coupe là pour le début, puis il s'arrête là. Où est-ce qu'on va s'arrêter ?
Alors, en BD, qui est un autre type d'écriture, puisqu'on travaille avec un outil qui s'appelle un dessinateur, mais avec un autre rythme qui est 46 pages, il ne fait pas 47 pages, il fait 46 pages, et on a une action de fin de chapitre, à chaque page, de tourner la page. L'action physique sur une BD est complètement différente que sur un roman. Donc, le franco-belge nous a appris justement à faire une dernière case de fin de page à droite. Et voilà, et à chaque page. Alors, plein d'auteurs ont oublié justement, parce que plein d'auteurs n'ont plus les références du franco-belge des années 60-70, mais c'est super important. Si tu ne te sers pas de la mécanique même d'un objet quand tu l'as dans les mains, ça ne sert à rien. Autant faire du cinéma où là, tu n'as absolument pas ce rythme-là. C'est s'arrêter sur une fin de chapitre ou une fin de page en BD, pour moi, c'est primordial. Parfois, on se rate. Si vous voulez, on change, on se met nous dans la salle, ou là, par contre,
quand vous écrivez à la main, et vous êtes deux structurants, vous réunissez au départ, et vous décidez de...
Oui, on fait tout le synopsis, découpage. Mais c'est très matériel, hein. On écrit chapitre 1, on laisse 4 lignes, chapitre 2, etc. Et on voit, finalement... Il faut voir à peu près où on veut aller. Justement, pour l'enfant mémoire, il m'a dit on pourrait bien finir ce bouquin par la phrase « Je ne t'oublierai jamais ». C'est la dernière phrase du roman. Donc la première
c'est la dernière
chose
phrase de tout le roman.
La première chose qu'on a écrite, ça a été de mettre en haut l'enfant mémoire, en bas de la page « Je ne t'oublierai jamais » pour qu'on a rempli les cases. Et
des fois, il fait un schéma comme ça avec tous les noms.
Oui. Ah, lui, il ne sait pas faire ça, mais moi, je ne peux pas m'en passer. C'est ce que j'appelle le diagramme des enjeux. Moi, je mets au centre de ce qui se passe, à gauche, à droite. Je fais des couleurs différentes, les gentils, les méchants, etc. Il faut que.
La vie de Juliana, ça explique pourquoi.
Mais j'ai besoin de choses très concrètes comme ça, de faire des graphiques, des tas de trucs.
On a qui post-it hein, avec tous les noms des personnages.
Ah, tu fais un bord, tu fais un séquence.
Bon, chacun a sa sauce du moment qu'on y arrive. Mm-hmm.
Mais il y a une chose peut-être qu'il faut aussi préciser, c'est que, bon alors c'est peut-être nous, le fait qu'on soit amis et non pas couple, on ne sait jamais disputer. On ne s'est jamais engueulé.
Nous non plus.
on a toujours eu une tolérance aux idées de l'autre qui est dans le domaine du relationnel courtois, de l'amitié. Un petit détail, par exemple, un jour on était ensemble en animation scolaire à Tours et puis on est reparti, on devait faire Tours-Orléans et il a pris l'autoroute s'éloignant donc de l'autre côté de Tours. On avait 25 km à faire sur l'autoroute, demi-tour sur la première sortie et rentrer sur l'autoroute. Il gueulait comme un putois, il faut dire qu'on avait passé toute la journée devant les gamins au lycée Grandmont, on était crevés. Et donc il disait, oh mais putain, mais je suis con, mais pourquoi j'ai pris dans cette direction-là, etc. Je lui dis, écoute, Alain, t'énerve pas à ce point-là, c'est jamais que 50 bornes. Je lui dis, on va faire 50 km, tu vas sortir 25, on va sortir, on va faire 25 dans l'autre. Et là, il a eu cette phrase absolument merveilleuse. En me jetant un coup d'œil, il m'a dit, tu te rends compte que si t'étais ma femme, tu serais en train de m'engueuler. Et c'était la stricte vérité. Au moment où il a dit ça, je me suis dit, si c'était mon mari qui fasse une bourde pareille, alors que je suis crevé comme ça, il s'en prendrait plein la tête. Mais c'était l'inverse. J'étais en train d'essayer de lui, enfin, c'est jamais que 50 bornes, donc on va pas. Ça. Mais ça, c'était la relation amicale. Donc on a fonctionné tout le temps comme ça sur nos romans. Par exemple, pour Les Manches-Forêts, le premier tome de la série Carrie et Meghan, on avait une commande de Nathan. Donc c'est Nathan qui voulait, c'est le premier roman qu'on a fait ensemble en fait. Hein. Nathan voulait qu'on fasse un roman ensemble pour leur future collection Pleine Lune et un roman de science-fiction. Et c'est Denis Guillot qui donc dirigeait le projet. Et puis, bon, moi, j'ai tendance à écrire des bouquins écolos, et j'ai dit à Alain, j'ai dit, je ferais bien un roman qui se déroulerait sur une planète entièrement forestière. Et il a dit, bah oui, pourquoi pas, après tout, tiens, c'est marrant d'essayer pour les gamins de 9-12 ans de construire ça. Et donc, je dis, puis il y a aussi une chose qui me titille depuis longtemps, c'est un gamin qui aurait une sorte de pouvoir, pas complètement télépathe, mais enfin quelque chose comme ça. Et donc, bon, il habitait à Orléans, moi à ce moment-là j'étais en région parisienne, il travaillait à France Télécom, il me téléphonait tous les jours, il ne travaille plus à France Télécom, mais il me téléphone toujours tous les jours. Et donc, le téléphone sonne, et il me dit, dis donc, la planète forestière, on pourrait peut-être l'appeler Forestia. Alors je dis, ah oui, bon oui, tout. Après tout, soyons basiques. Et il me dit, merci. Ça serait...
Donc je raccroche.
Je lui dis, ça serait... Il me dit, et puis ça serait une planète où la forêt serait assez particulière, c'est-à-dire que quand on couperait un arbre, il repousserait en une heure. Bon, alors là, j'ai rien dit. Là. Il me dit, alors il y a des grosses chenilles qui mangeraient la forêt. Alors,
il prenait de la drogue à
l'époque. Pas du tout, justement. Alors donc, je lui dis, des grosses chenilles qui mangent des arbres. Alors il me dit, oui, des grosses chenilles. Alors bon, dans ma tête, j'agrandis un peu la vision mentale d'une chenille, à peu près la taille d'un chien, et je dis, mais comment veux-tu qu'une grosse chenille puisse manger des arbres? Alors, il me dit, non, mais c'est des grosses chenilles. J'ai entendu, oui. Il me dit, mais c'est vraiment des grosses, comme des TGV, il me dit. J'ai dit, oui, effectivement. Alors donc... Quand vous avez un copain qui vous dit on va écrire une histoire avec des chenilles grandes comme des TGV, vous vous dites c'est l'heure de sa piqûre, c'est pas possible. Hein? Mais c'est là
vous
la
vous dit, ça a marché avec les vers des sables. Chenilles, arbres.
Voilà. Donc finalement, c'est un peu cette tolérance-là qui fait que je lui ai dit oui, bon, d'accord. Je dis tu sais que des chenilles grandes comme des TGV, ça va faire des papillons grands comme des avions. Et alors là, c'est lui qui est resté silencieux au bout du fil, il a dit « Merde, j'avais pas pensé aux papillons !» Donc voilà, lisez Les Manches-Forêts, vous verrez, les chenilles sont grandes comme des TGV, et à la fin, les papillons sont grands comme des avions. Mais c'est un best-seller ce truc, hein. Donc, si j'étais parti d'emblée en disant « Mais t'es con, comment veux-tu qu'on imagine des chenilles grandes comme des TGV ?» Je l'ai laissé faire, et bon, voilà, hein. Je sais pas combien de gamins ont lu Les Manches-Forêts en France, mais c'est phénoménal, quoi. Alors donc, voilà.
Oui, vous êtes à la genèse de... Ça fait 200 000 exemplaires, quand même. Pour ça, je vous dis que c'est un
best-seller.
Comment ?
Ça doit bien vous arriver de pas être d'accord.
Mais si on n'est pas d'accord, on laisse tomber, quoi.
D'accord.
Oui, c'est ça. On n'entre pas dans le conflit. S'il y a quelque chose que je dis qui ne lui plaît pas, vice-versa, on ne le fait pas.
Nous, pareil.
On part sur une autre... Mais bon, c'est on n'aurait jamais écrit autant. Enfin, moi, je suis sûr que j'aurais pas publié autant de romans.
Il manque quand même des fois, parce que moi, justement, continuons sur Kerry Mulligan. Kerry recherche absolument ses parents, que tout le monde pense être mort. Il y a que lui, avec son pouvoir sensitif, qui sait que ses parents sont pas morts. Et donc, moi, je m'occupais de la fin du livre.
Histoire de droguer, quand même.
Ouais, voilà. Ouais.
Je m'occupais de la fin du livre, et à un moment, donc, Kerry retrouve ses parents, et moi, j'avais écrit, et Kerry retrouve ses parents.
Voilà.
Et je continue. Alors, elle dit, ouais, non, mais ça va pas, tout l'enjeu du livre, c'est de retrouve. Il y a un peu d'émotion et tout ça. Je dis, ouais, t'as raison, écris-le. Donc, il y a deux pages où.
Il y a deux pages où le petit garçon, sa maman est ému de le retrouver et tout. Ça, c'est du Martinique.
Voilà.
Rousset, il est incapable d'écrire ça. Mais par contre, la bouffe, les confitures et tout, c'est lui. Hein. Ça, il l'assume.
Excellent.
C'est pas. C'est un travail de complémentarité. C'est pas moitié-moitié. C'est, chacun amène. C'est...
Et quand on a écrit Sens interdit, c'est le dernier qu'on a écrit ensemble, donc il y a deux, enfin, il est sorti il y a 2 ans. Là, c'était différent. On était presque young adulte. On était dans une.
Le livre.
J'ai dit, oh, et si tu veux rester copain, toi hein? Et là, j'ai voulu faire une scène de baston. Je lui ai dit, il y a un moment donné où ça va cartonner. Je veux l'écrire celle-là. Il faut que je m'entraîne, alors autant m'entraîner sur un truc où il y a Grousset qui peut assumer pour moitié. Ça, je pourrais toujours dire que c'est lui qui l'a fait. Mais non, j'ai eu envie d'écrire. On s'est un petit peu amusé dans Sens interdit à écrire l'un et l'autre les scènes qui d'habitude étaient plutôt cataloguées Martinigol ou Grousset. Et du coup, l'osmose dans le bouquin,
c'est bien. Moi, j'ai écrit un livre avec Suzy Morgenstern et... C'est un changement de sexe dans l'histoire. Alors déjà, lorsqu'elle a été au Canada, elle s'en est souvenu de notre livre commun, parce qu'ils lui sont tombés dessus en raccourci. Mais bref, il y a un moment, il y a tout un chapitre sur l'épilation féminine, et c'est moi.
Et voilà.
Qui m'en suis occupé. Je suis très très fier. Après une semaine de recherche sur Internet, je savais tout sur les différentes épilations.
Et le fisting aussi.
Voilà. Mais comme quoi, on peut. Ouais.
Nous, il y en a qui essayent de savoir qui écrit quoi, et la plupart du temps, effectivement, ils se trompent quand même. Ouais. Parce que, effectivement, on n'est pas comme on écrit, donc.
Souvent, nous.
C'est pas une science exacte. Donc,
avec le temps, voilà. On ne sait même plus qui a écrit quoi.
Ah oui, mais
c'est ça. Enfin, toi, tu ne sais plus. Ouais. Bon, il ne sait même plus les noms des personnages de ses propres romans.
Voilà.
Quand on est en intervention devant les élèves lui parlent de romans qu'il a écrits tout seul. Il est incapable de se rappeler si c'est oui ou pas. Et c'est moi qui lui souffle. Je lui dis, mais si, mais si.
Oui, voilà. Elle se souvient de tout, qui est machin, ses descendants, ses ascendants. Tout est gravé dans le bronze. Hein.
Mais bon, Alain a travaillé avec d'autres auteurs. Moi, je n'ai écrit qu'avec lui. Et puis, les Lumina avec lui et Paco Porter. Je n'ai jamais écrit de texte avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est une expérience différente, lui.
Moi, j'adore ça, parce que je trouve qu'il y a un partage. On est moins seul, l'écriture, même si la phase de l'écriture, on est seul, mais avant, quand ça marche bien, justement, ah oui, ah, puis ça, c'est un ping-pong qui est très, 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 très jouissif, quoi. Enfin, vraiment, cette genèse. Donc, j'écris aussi des albums pour enfants avec un autre auteur qui s'appelle Karl Norak, et on a commis des. Là aussi. Quelques best-sellers, dont Croûte de mammouth.
Mais c'est venu d'une idée à toi, ça, au départ.
Oui, ouais, ouais, c'était, on a vu, c'était.
Non, ça, d'habitude, tu dis que c'est l'autre.
Oui, ouais, mais n'empêche que je sais que c'est lui qui a eu l'idée au départ.
Pardon. Oui,
oui. J'adore ce livre. Toute la série des proutes, hein, c'est quoi ça?
Un an de sponsorisation par les Fayot Yann Chorin. Ah non, c'est ça, c'est très rigolo aussi, ça, mais là aussi, ça fluctue, parce qu'au départ, c'était le départ d'une petite histoire. Je voulais qu'un petit gamin préhistorique trouve un petit mammouth abandonné, puis le ramène dans la grotte, et puis, bien sûr, le mammouth grandit, puis il a un peu de flatulence, et donc ça sort tout le monde de la caverne, toi. Donc on a bien rigolé là-dessus, puis après, on est parti sur les routes, et on a changé radicalement de pied.
Et de tranche d'impôt.
De tranche d'impôt. Mais ça a été assez rigolo de... On était à chercher des proutes comme ça, donc du style proutes de dragon, trou dans le caleçon, enfin bon, etc. Et on était dans le train, en première classe, et on se bidonnait et tout. Et d'un seul coup, je relève, regarde, je vois la moitié du wagon qui nous regardait. Ils entendaient ça, ils ne comprenaient pas pourquoi c'était fait de deux quinquagénaires en train de se bidonner sur des trucs à la
Toto. D'araignée, étoile déchirée, c'est vrai que dans un wagon de première.
Et alors, ça a été. Il aurait fallu filmer la scène, tout le monde disait bon, qu'est-ce qu'on fait? Où est le signal d'alarme? Voilà. Donc, que des avantages, moi je trouve. Alors, les inconvénients, on
dit. Partager les droits déjà.
Non, ça va.
Mais oui, quand il y en a. Femme, donc c'est 20-80.
Bah oui, c'est normal.
Non, mais il y a plein de gens qui imaginent que sous prétexte qu'on est deux auteurs, on touche deux fois plus. C'est pas vrai. Hein. Si les droits sont de 5%, on aura 2,5 chacun. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré pour Les Manches Forêts, par exemple. Hein. On n'a jamais d'ailleurs.
Bah, sinon, on écrirait à 17. Hein. Ouais. Mais mais c'est les désavantages quand on écrit ensemble et qu'on vit ensemble et qu'on travaille ensemble, c'est qu'on multiplie la durée de vie commune par 3-4 et qu'au bout d'un moment on en a un peu marre et qu'on s'en va, enfin, qu'elle nous jette dehors plutôt, mais on continue à travailler ensemble parce que si on a une technique d'écriture qui est au point, faut pas la gâcher quoi. Donc ça a été ça le plus difficile au début, mais on s'en est relativement bien sorti. Oui. Puis bon, il y avait les enfants aussi. Donc ça,
oui, non, les inconvénients, c'est vrai que pour un couple, je pense que oui, c'est, ça va être plus dur que ouais. Nous. C'est un prétexte aussi à discuter ensemble, à être ensemble, à écrire ensemble, à s'envoyer des chapitres. C'est plus stimulant de savoir qu'il y a quelqu'un attend déjà le chapitre que vous êtes en train d'écrire. Que de dire oui, alors est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je me suis pas fourvoyé, est-ce que ça va plaire à l'éditeur
donc voilà. Bah, je crois que c'est Souvestre et Alain, quand ils faisaient Fantomas, qui habitaient à 5 étages l'un de l'autre, 6 étages l'un de l'autre, ouais, et ils s'envoyaient chaque chapitre, ils finissaient un chapitre, ils descendaient, hop, et l'autre remontait, l'autre écrivait, hop, remontait, ouais. Et ils ont fait moult Fantomas comme ça, dans le même immeuble. Donc, voilà.
Ouais, mais pas ensemble quand même non plus.
Non, mais pas ensemble chacun non plus, ouais.
C'est pas...
Oui.
Et justement, dans les désavantages, certains auteurs parlent de la vie propre de leur personnage, du fait qu'à un moment donné, à force de roman en roman, de se retrouver dans des situations où, d'un point de vue d'histoire, c'est intéressant qu'ils prennent telle décision, mais que de par la personnalité même du personnage, non, ce n'est pas logique, vu tout ce qu'il a fait, vu son histoire, qu'ils prennent cette direction. Quand on est à plusieurs, on est plus ou moins sensible ou attaché au personnage ou ce genre de choses, est-ce que justement on peut sacrifier à cette cohérence vis-à-vis du personnage ou...
Est-ce que tu peux répéter la question? Non, je plaisante. C'est le contraire de la schizophrénie, c'est, je ne sais plus le terme exact, c'est plusieurs corps pour un seul esprit dans ce cas-là, c'est-à-dire que la vision du personnage que j'ai est exactement celle qu'a Anne et on se trompe rarement. Voilà. Donc on sait à peu près. Et ensuite, on rajoute le gardien de la réalité qui sera l'un des deux, moi, pas déconner, et qui fera garde-fou. Mais sinon, globalement, si on est d'accord au début sur un perso, c'est qu'on est d'accord sur, à la limite, sur les archétypes qu'il transporte, machin, enfin, donc on sait à peu près ce qu'il va faire, grosso modo. Et à la limite, s'il fait un truc qui en surprend un, il va être surpris. Mais comme un personnage doit surprendre ses auteurs de temps en temps, parce que sinon, on se fait chier, quoi.
Voilà. J'ai dit, lorsqu'on fait une série, le héros, en l'occurrence, Kerry Mulligan, par exemple, ça a duré sur une dizaine d'années, il fait partie de la famille, on sait exactement comment il est, comment il va réagir.
Alors le truc, c'est qu'ils ont une table avec une assiette vide à chaque fois. Voilà.
Mais oui, on connaît sa date d'anniversaire et tout. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il est, au bout d'un moment, sa façon de réagir face à une situation, il n'y a pas besoin de se mettre d'accord, on sait déjà comment il va réagir. Logiquement, voilà, il a sa personnalité.
La plus grosse difficulté, c'est de, enfin, dans une série jeunesse comme Kerry et Meghan, c'est de faire vivre à des gamins un âge éternel et un été éternel et des vacances éternelles. Parce que pendant 10 épisodes, ils sont toujours au même âge, ils ont le bouquin, enfin, il y a 10 ans d'écart entre les, même plus, hein, entre les bouquins. Et nous, on est tenté de les faire un peu vieillir, on est tenté de leur faire vivre. Et là, en plus, entre Kerry et Meghan, il est plus jeune qu'elle, elle a 14 ans, il en a 11. À un moment donné, elle commence à s'intéresser à d'autres gars et tout. Kerry manifeste un petit peu de jalousie. Nous, on l'avait évoqué d'une façon assez légère dans le roman, mais alors Philippe Munch s'est explosé à un moment donné dans un dessin. On voit la Meghan énamourée devant un gars qui facilement en fait 18 ou 20 ans. Et donc on s'est dit, ça ne va jamais passer. Parce que... et on a compris après, parce que Philippe Munch, lui, il avait pris comme modèle pour ses dessins des jeunes qu'il connaissait. C'était une fille d'un de ses amis et puis un de ses petits-neveux, je crois, parce qu'il est capable d'être, c'est un portraitiste absolument extraordinaire, il est capable de mettre en situation, en mouvement et tout, les gosses avec leur vrai visage, en fait. Et donc, il les avait vus grandir autour de lui, ces jeunes-là. Et puis, quand il a lu... parce qu'on a toujours travaillé... C'est important, peut-être, de dire ça aussi pour Kerry et Meghan, parce qu'on a toujours travaillé vraiment en contact avec lui. On ne le connaissait pas au début. C'est Nathan qui a choisi Philippe Munch comme illustrateur pour la série. Philippe est quelqu'un qui est très, très, très solitaire chez lui. Il ne sort pas beaucoup, on ne le voit pas beaucoup. Et Alain, lui, alors justement, téléphone, France Télécom et tout, téléphone à l'autre bout de la France, j'appelle Munch, bonjour, je suis à la Grousset, c'est vous qui allez illustrer notre roman. Et Philippe n'avait pas du tout l'habitude que des auteurs le contactent comme ça, il a un petit peu reculé au départ, puis après, bon, de toute façon, on s'est rencontrés et on a bien sympathisé. Et il nous disait, ben ça, ne le décrivez pas, je le dessinerai, ou ça, j'ai pas du tout envie de le dessiner, décrivez-le, parce qu'on est... On ne construisait pas les synopsis avec lui, mais on lui soumettait très vite. Donc ça nous aidait aussi, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'illustrations dans la version pleine lune de Kerry et Meghan. Et là, c'était marrant quoi, de voir que lui, il avait senti comme nous les personnages, la tentation de les vieillir un peu. Mais nous, on les coinçait, c'est le problème des séries, hein, on les coinçait vraiment dans cet âge éternel, hein, et donc voilà, c'est peut-être une des contraintes sur les personnages quoi, quand on fait une série.
C'est la série, on ne sait jamais.
Pour jeune, hein, bien sûr.
Un enfant, à quel numéro il rentre. Il ne va pas rentrer forcément par le numéro 1 et continuer. Un jour, il y a un copain qui lui dit putain, ça c'est bien, et c'est le numéro 5. Donc ça veut dire qu'il faut remettre aussi de l'information dans chaque livre pour lui redonner la genèse de comment ils sont rentrés et tout.
Pour les faire des séries parallèles avec des âges différents, c'est comme Blueberry jeune, Blueberry vieux.
Oui. Oui, c'est vrai.
Ouais. Ouais, ça, c'est une des grosses difficultés, c'est de...
Oui.
Pardon, je n'avais pas vu.
Comment ça se passe le travail éditorial quand on écrit à quatre mains? Est-ce qu'il y a un interlocuteur parmi les deux auteurs qui est privilégié avec l'éditeur? Comment ça se passe?
Non. On a toujours...
Non, oui.
Oui, voilà, non, ça... Ça dépend. Bon, souvent, tu as été toi aussi, puisque bon, tu t'occupais du lissage final, donc après, naturellement, c'est toi qui envoyais le manuscrit, donc souvent, tu avais les retours du manuscrit. Ouais. Et, non, c'est pas nous, c'était pas une obligation. Ça pouvait être les deux en même temps. Et toi, c'est tout le temps
On s'est partagé le monde à un moment donné, justement pour la représentation, donc Anne s'occupe des trucs sans images, et moi des trucs avec images. Voilà. Et effectivement, les éditeurs ont plus tendance à voir Anne sur les romans et moi sur la BD. Et, alors que ça ne change rien, mais moi, comme ça leur donne un seul interlocuteur. Et la notion de flou qui est juste derrière nous est un peu masquée dans ce cas-là. Mais c'est important. Et après, c'est pas grave, on fait notre cuisine ensemble via moult mails et moult déjeuners.
Ce qu'on peut peut-être parler aussi, c'est le fait d'écrire à plusieurs impose assez souvent un pseudonyme.
Ah.
D'où des fois des choses intéressantes avec ce pseudo par rapport à l'autre nom.
On ne nous l'a pas imposé, le pseudonyme de Kim Aldani pour la série Kerry et Meghan. On était tous les deux des auteurs Hachette. Nathan vient nous déboucher en nous disant faites-nous un roman. Donc on a dit, c'est un petit peu délicat par rapport à Hachette qui a publié nos premiers romans et qui nous a lancés. Donc on va prendre un pseudo, donc on a fabriqué Kim Aldani comme ça, mais ça nous a joué un ou deux tours quand même, puisqu'on a perdu un prix littéraire assez important, simplement parce que les jurés ont cru que c'était un auteur américain. Donc,
Excellent, ils connaissaient leur travail. Quoi.
Donc, mais bon.
Non, nous on nous a imposé aussi pareil notre premier pseudo, donc en 87, parce que Glénat ne voulait pas de nom de scénariste sur la couverture. Donc c'était un scénariste, un dessinateur. Et il y a eu deux scénaristes, c'était trop bien peut-être, je sais pas.
Alors que maintenant il y a le coloriste.
Ouais, là c'est ça, maintenant il y a le mec qui balaye. voilà. Et,
c'est comme les films.
Et quand on est revenu à la BD, on a inversé le pseudo pour changer de nom, puisqu'il valait mieux qu'on rentre par la fenêtre que par la porte. Donc, on a bossé à un moment donné, je l'ai compté parce que c'est difficile, on a bossé à un moment donné avec 7 pseudos différents. Que ce soit en trad, que ce soit dans le jeu de rôle, que ce soit en roman, que ce soit en article de Cassius Belli qui parlait de nos jeux à nous.
C'était pour les impôts.
Voilà, avec un pseudo féminin, comme ça il y avait une fille qui s'y connaissait dans le jeu de rôle français, forcément. voilà. Donc voilà. Mais, et donc on a tout regroupé à un moment donné sur Ange pour... parce que quand même ça commençait à faire beaucoup et puis à faire effectivement trop de flou, trop... Et quand on a commencé à faire les blondes, on s'est dit on va reprendre un pseudo quand même parce que là ça va pas faire sérieux du tout. Donc.
Nous on avait pris un pseudo, le pseudo d'Anne Alpac pour la série Lumina parce qu'ils pouvaient pas mettre nos trois noms sur la couverture, ça faisait trop de place.
Enfin, la couverture c'est surtout aussi le dos. Sur le dos, c'est pas extensible.
Donc on est reparti sur le même principe, Dan Alpac pour Daniel Alain Paco. Comme Dan pouvait être aussi bien masculin que féminin, on est reparti sur ce principe-là. Mais la nouvelle réédition du premier tome, Le Royaume Maudit, c'est les trois noms, ils sont. Comme quoi, quand ils veulent, ils arrivent bien à faire tenir trois noms.
C'est marrant. Hein.
Ouais. D'autres questions? Allez-y, à un moment.
Au revoir.
Donc, les littératures, des fois, c'est plus difficile d'écrire à deux, parce que j'ai l'impression que c'est plus personnel, puisque ça sort au moment où il écrit. Donc là, il y a des gens qui sont incapables d'écrire avec quelqu'un d'autre. Je ne partage pas, mais on...
Au début, nous, si on a été structurant, c'était peut-être aussi une contrainte de temps. On avait un boulot tous les deux, à plein temps, on ne pouvait pas se permettre non plus de partir... sur des voies qui, au demeurant, auraient pu être bonnes et sympathiques, mais on pouvait se pourvoyer et puis être obligé de revenir en arrière. Donc, quand il y a peu de temps pour travailler, moi j'étais prof à plein temps, je travaillais les week-ends ou les vacances. Après 7 heures de cours devant des gamins, j'avais pas trop envie de me mettre devant l'ordinateur. C'était bien d'avoir une structure justement pour pouvoir centrer vraiment sur quelque chose.
Il y a des cas assez extraordinaires parce que les Grimaud, qui étaient donc un couple, écrivaient, inventaient une histoire, chacun écrivait l'histoire et après ils faisaient une troisième histoire en gardant ce qu'il y avait de meilleur dans chaque histoire.
C'était un couple marié aussi, mais ils signaient sous le nom de Michel Grimaud, mais ils travaillaient tous les deux comme ça.
Donc là ça prend du temps aussi. Hein, mais c'était une autre manière d'essayer de prendre le meilleur de chacun pour le réunir à un moment donné dans une troisième voie. Voilà, il y a une autre technique.
Voilà. Sinon, la technique de base pour gagner du temps quand on écrit à deux, c'est de faire une double trame, qui est une bonne technique de William Gibson sur quasiment tous ses romans, avec elle se suit, elle se recroise, et en fait, tu peux écrire à deux puisque tu as une seule trame, et ensuite tu remets les chapitres dans l'ordre. C'est pas... Et ça, on l'a aussi utilisé un petit peu. Oui.
Bon, vous savez tout de nous.
Ben voilà,
on a tout de nous. Monsieur Dardinier, pas de question d'habitude, vous qui parlez tout le temps.
Justement, je fais des efforts terribles.
Top, tu sors.
De s'assurer, en fait.
Ah oui, bien sûr, évidemment. Enfin, c'est, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est évident. C'est,
bien sûr, il y a toujours une épaule à côté, là.
Bien sûr.
Si on est un peu à sec sur un chapitre, on en parle, l'autre tout de suite démarre. Il y a pas de trucs.
Ouais, c'est à la fois un soutien et puis ça peut être une barrière aussi. C'est-à-dire que. Quand j'envoie quelque chose à Alain et que ça ne lui plaît pas, comme je disais, il le dira avec courtoisie. Mais enfin, bon, moi, je peux être très contente de mon truc et boum, d'un seul coup. Ou alors l'inverse. dire ça, j'ai pas vraiment su m'en sortir, et bon, si, ça passe bien, etc. Mais on se fait un peu les mêmes critiques que sur nos propres livres. Là, le livre que je viens de sortir, quand je lui ai envoyé l'année dernière, il m'a torpillé la deuxième moitié. Il m'a téléphoné, il venait de lire la première moitié, il me dit « c'est très très bien, ça fonctionne très bien ». Je lui dis « écoute, va jusqu'au bout déjà, je chante pas victoire trop tôt ». Il me téléphone après, il me dit « oui, bah, toute la deuxième partie est à refaire hein, ». Alors, c'était pourtant un de mes livres, mais il avait raison. J'ai confiance en lui, donc je sais que si lui me dit « ça passe pas », c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui passe pas. De toute façon, il lit vraiment tout ce que je fais, alors que mon mari s'en fout, il ne lit pas les bouquins. Alors donc, mes enfants, ma fille les lit. Elle les lit maintenant quand ils sont publiés. Autrefois, quand elle était ado, qu'elle vivait à la maison, j'avais l'ado en direct pour tester le truc. Mon fils, quand il était fan de manga, quand il était plus jeune, sur son site, il avait mis « Vous aimez la science-fiction, lisez les romans de Daniel Martin-Eagle », mais lui, il ne les avait pas lus. Il est venu un jour me demander mes trois premiers romans. À l'époque, il y en avait que trois. Et de son grand pas nonchalant d'ado, « Maman, passe-moi tes livres ». Alors donc, je lui passe les trois bouquins, il revient à peu près un mois et demi après, il pose les bouquins, il repart de son grand pas d'ado sans faire un commentaire. Je lui dis « Oh, stop, stop, demi-tour ». Je lui dis « Qu'est-ce que t'en as pensé ?» Il me dit « Oh, c'est pas mal bon. ». Je lui dis maintenant, parce qu'il faut dire que le premier jour, quand il était venu me demander les livres, j'avais mis la main sur son front pour voir s'il n'avait pas de fièvre. Alors il avait fait Bon, alors donc... je lui dis stop, alors maintenant tu vas me dire pourquoi tu as voulu les lire. Parce que, wow. Je lui dis vas-y, dis-moi la vérité, ça m'intéresse. Il me dit ouais, dans ma classe, il n'y a que moi qui ne les avais pas lus. Merveilleux. Ça ne s'invente pas ça. J'ai compris, ses copains, sachant qu'ils avaient le fils de Daniel Martin-Eagle dans leur classe, avaient la curiosité, c'est une classe de quatrième, de lire les bouquins, ça leur avait plu, il lui en avait parlé, il avait posé des questions, il avait dû commencer par répondre des cracks, jusqu'à ce qu'un dise, mais tu les as lus au moins. Et là, il s'est dit, peut-être que je les lise quand même. Mais c'est tout, il a lu que les trois premiers, il n'a jamais lu.
C'est exactement la même chose avec mon second fils. On a déménagé, on arrive dans un collège, il est genre cinquième. Le soir, il me dit, tu peux me passer la citadelle de liberté? Je dis, ça te prend. Non, mais j'ai eu la honte aujourd'hui, parce que quand tout le monde a su que j'étais tout, ils avaient tous lu en sixième la citadelle de vertige avec la prof de français, et il était le seul à ne pas l'avoir lu. Il a cravaché pour la lire. Quoi. Puis on essaye de traduire, on dit, ça va, ça t'a plu? Oui. Alors on dit, oh, bien, bien.
Ouais, c'est pas mal en fait.
Non, mais ça remet un peu en place. Hein.
Donc l'écriture à deux permet aussi ça, pour revenir à la question. Ça permet ou d'avoir un soutien ou d'avoir un regard critique. Parce que quand on est né dans nos trucs, on a des doutes. Quoi. Bon, heureusement que de temps en temps, on va se coucher le soir tout content de ce qu'on a fait, parce que là, au moins on dort bien. Mais on se réveille le lendemain matin en se disant il faut que je relise quand même, c'était si bien. Et puis là, on dit oh, ça passe pas si bien que je le pensais.
Mais le contraire est vrai aussi.
Le contraire est vrai aussi.
On se couche parfois en se disant c'était pas terrible, et le lendemain, en fait, oh, ça va. Oui.
Et pendant qu'il dort, il va par l'alcool et tout, c'est la femme de ménage. Voilà. Et le lendemain, il y a comment j'ai fait, c'est pas mal. Non, parce que nous, quand on démarre, on a déjà l'histoire dans la tête, ouais. Donc on n'a pas cette truc de la page blanche. Ouais. Ouais. La page blanche, ça, c'est pour littérature. Et un jour, le robinet, il ouvre le robinet, mais il n'y a rien qui coule. Quoi.
Il y a même au moment où on structure la trame, des fois.
Ah oui, mais ça prend le temps que ça veut, mais à un moment donné, on y arrive. Quoi. On
pense pas. C'est pas d'avoir les idées qui est le plus difficile, c'est d'écrire, en fait. C'est d'y passer du temps. Et ça, par contre, c'est difficile à expliquer. Moi, quand on me dit comment vous faites et tout. Je peux pas dire. J'ai écrit le garçon entre dans la pièce, traverse la pièce et ressort en compagnie de la fille, etc. Qu'est-ce qui va faire que dans le cours de l'écriture, il va ouvrir la porte, il va dire ça, il va faire ça. Enfin, c'est toujours l'exemple que je donne quand je vais en rencontre avec des scolaires qui ont lu mes livres. Au 19e siècle, le garçon, il entrait, il voyait la jeune fille, il disait « Très cher ami, je vous en prie, veuillez me suivre, nous allons ressortir par là ». De nos jours, le gars, il attrape la main de la fille, il dit « Viens, on se tire de ce côté-là ». Il faut que ce soit... on se sauve par là. Et donc le langage, enfin la façon qui va prévaloir, enfin la façon d'écrire qui va prévaloir, on peut pas vraiment la prévoir. Enfin, je sais pas. De toute façon, je m'en fous. Je ne tiens pas à savoir comment ça marche. Le jour où je saurai exactement pourquoi j'écris, comment j'écris, etc. Moi, je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez l'illustrateur Wojtek Siudmak, qui a fait toutes les couvertures de la collection Press Pocket Science-Fiction, etc., et Fantasy. Siudmak, j'ai eu l'occasion de discuter souvent avec lui. Un jour, je lui ai demandé d'où il sortait toutes ces images. Il m'a dit du flou. Et j'ai dit, c'est quoi le flou? Il m'a dit, je ne sais pas et je ne cherche pas à savoir. Parce qu'il m'a dit, le jour où je saurai exactement d'où viennent toutes mes images, je ne sais pas si je continuerai à en avoir, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça.
C'est ce qu'on demande toujours à Stephen King, comment vous faites. Et donc, il a répondu qu'il avait un service d'idées à Poufkepsi, qui lui envoyait des idées tous les mois. Et les journalistes ont noté, consciencieusement. Voilà. Donc moi, j'ai adapté ça pour Chartres, parce que c'est quand même une belle ville. Et donc j'ai un service d'idées à Chartres qui m'envoie des idées et des débuts de romans. Et voilà. Mais c'est vrai que si on savait, on pourrait écrire des bouquins dessus. Hein, mais c'est pas.
Mais on a 2-3 siècles d'avance, moi. J'ai...
Ouais.
Plein d'idées en permanence. Non, mais des fois, il faut. C'est bien qu'on en remette aussi un peu. On rabaisse un peu. J'ai le souvenir du style de, au moment de dédicacer, il y a quelqu'un arrivant en disant « Monsieur Grousset, j'ai lu tous vos livres. Le premier est bien. »
Ah, le bâtard.
Donc là, tu... C'est bon. Ça remet. Ça recorde.
Moi, le plus rigolo que j'ai eu, c'est la première fois que j'ai dédicacé mon premier roman. Donc c'était vraiment ma première dédicace. J'étais à Roanne, la fête de la science-fiction, là. Et c'est tout ému, tout content d'avoir ma petite pile d'or bleu devant moi. Arrive un monsieur âgé qui me dit « Ah, je le trouve enfin, ce bouquin !» Alors, il me dit « J'ai fait 72 km pour venir l'acheter !» Alors, je suis toute fière. Il me dit « Il était annoncé dans le journal local que vous alliez signer votre premier roman intitulé L'or bleu. » Alors, il me dit « Il faut me le dédicacer. » Alors, je lui dis... Je lui dis, c'est pour vous, alors, et vous le voulez pour vous? Alors, il me dit, oui, c'est pour moi. Alors, je lui dis, je ne veux pas vous vexer, mais c'est un roman pour jeunes. Il me dit, je m'en fous, je ne le lirai pas. Alors, j'ai reposé le stylo, j'ai dit, écoutez, expliquez-moi pourquoi vous avez fait 72 km pour venir acheter un roman pour jeunes à votre âge, alors que vous savez pertinemment donc que vous ne le lirez pas. Il m'a dit, je suis chercheur d'or, j'achète tous les livres où il y a le mot or dans le titre. Mais je vous jure, hein, c'est ce que je meurs sur place tout de suite, c'est ma première dédicace. Hein. Alors, le deuxième qui se pointe, j'ai été vacciné, le deuxième qui se pointe, il dit, je vous l'achète si vous me faites un dessin. Mais je lui dis, je suis pas illustré. Illustratrice, moi. Il me dit, mais je ne vous l'achète que si vous me faites un dessin. Alors, c'est un roman où il n'y a plus de Méditerranée, donc j'ai fait un petit trait ondulé en travers de la page de garde, et j'ai mis Méditerranée reconstituée pour monsieur, j'ai dédicacé, il avait payé le bouquin, il est parti, il était content, il avait son dessin. Depuis le premier jour, je sais qu'on peut s'attendre absolument à tout pour les dédicaces. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, un gamin qui arrive devant moi, et puis... ses parents étaient derrière, j'avais aperçu l'ombre parentale et je lui dis, tu t'appelles comment? Alors il me dit Arthur Leroy. Alors je lui dis, tu sais Arthur, je mets que les prénoms en général. Alors je commence et j'entends au-dessus, c'est dommage. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors je dis, j'ai pas compris, qu'est-ce qui est dommage? Arthur Leroy. Je dis, oui, mais je ne mets que le prénom. Mais il me dit, ça fait le roi Arthur qui me met le père. Oh là. J'ai dit, écoute Arthur, je ne mets que les prénoms sur mes livres. Je ne mets jamais le nom de mes jeunes lecteurs. J'ai dédicacé à Arthur, mais... Il y a des souvenirs comme ça. On en a eu quelques-uns ensemble Roland, pour sur Kerry et Meghan, qui était pas mal aussi. On n'a pas eu connaissance qu'il y ait des bébés qui aient été baptisés Kerry, des Meghan. Ça, d'ailleurs, ça nous avait posé un sacré problème quand Renault a sorti sa bagnole qui s'appelait la Meghan. On s'est dit, tout le monde va nous dire, votre héroïne est belle comme un camion, mais non, on n'a jamais eu de retour. Ça n'a jamais, jamais été évoqué.
Par contre, il y a des Meghan.
Bon, on a fini, ça fait une heure.
Pas mal.
On a tenu notre deal. Hein.
Donc le modérateur va nous faire une jolie conclusion. Au revoir.
Merci.